pour vous, voici Page après page avec Gisèle. Une rencontre intimiste avec un auteur. Bonjour et bienvenue Aujourd'hui, je reçois un auteur que j'avais rencontré il y a déjà longtemps, Jean Allière. Montesquivien est toulousain parce qu'il a grandi dans le giron de sa grand-mère paternelle, dans ce village du Volvestre, pour une question, on va dire, de survie, loin des affres de la guerre. Bonjour Jean.
Bonjour.
Vous avez choisi cette musique de Manitas de Platas, une belle musique bien entraînante pour nous mettre bien en jambes et en oreille pour écouter cette présentation de livre aujourd'hui.
Oui.
C'est quoi qui vous a fait choisir cette musique ?
C'est-à-dire que je voulais que ça contraste avec la musique qui va suivre après, par la suite, parce que j'adore aussi Manitas de Platas.
Oui.
C'est peut-être pour ça aussi.
D'accord. En tout cas, ça nous fait du bien de la redécouvrir. Et nous allons relater votre ouvrage que nous allons ouvrir dans un moment. Il s'agit de votre enfance. Comment est venu en vous ce désir d'écrire ? Parce que ce n'est pas la première fois que vous présentez des livres sur cette antenne.
C'est curieusement. Ce n'est pas un désir, c'est un peu le hasard. Peut-être que je n'aurais jamais écrit.
Mm-hmm.
J'ai eu un grave accident, mais j'en parle pareil dans mon ouvrage. J'ai eu un grave accident il y a très longtemps. Et je me suis retrouvé bloqué chez moi, après 4 mois d'hôpital, les huissiers à la maison. Et à partir de là, je me suis réfugié dans l'écriture, sans savoir que ça allait pouvoir être édité un jour.
Oui.
Donc, c'est resté plusieurs années dans un tiroir. Donc, c'est très étonnant, quoi. Mais je l'ai retravaillé quand même. Le manuscrit, au départ, c'était brut. Après, ça a été retravaillé. Et puis, il est là aujourd'hui devant vous.
En tout cas, il est magnifique. J'ai adoré lire ce livre parce que c'est l'enfance de beaucoup de gens de l'époque, déjà.
Oui. Et ça s'adresse aux seniors, oui.
Oui. Et un peu, même aux jeunes, je trouve.
Oh, les trentenaires. Pas trop, quand même.
Ça peut.
Pour faire un cadeau, peut-être, à leur grand-mère.
Mais ça peut aussi leur faire voir que tout n'était pas rose à l'époque.
Oui.
Et c'est que, également, je suis montesquivienne, donc quelque part...
Bon, vous êtes née à Montesquieu ?
Eh oui. Est-ce que c'est aussi pour laisser une trace de vous à vos enfants, à votre descendance ?
Je ne pense pas, non.
Non ?
Non.
D'accord.
Non, parce que ça a été spontané, quoi. C'est ce refuge dont je parlais précédemment.
Oui.
Mais une trace, on n'y pense pas trop, vous savez.
D'accord.
Enfin, pour moi, en tout cas.
Oui,
hein.
oui, d'accord. En tout cas, c'est une preuve qu'on peut vivre de pas grand-chose.
Ah oui, mais je n'ai pas souffert quand même, parce que j'ai eu une grand-mère.
Tout à fait.
Qui jardinait.
Oui.
Bon, non, il n'y avait pas de superflu, non.
Tout à fait.
Non. Puis on ne pouvait pas stocker, il n'y avait pas de frigo. Il y avait...
Vos souvenirs remontent vers vos 3-4 ans à peu près ?
Alors, les souvenirs, je pense, le premier souvenir,
oui.
C'est dans la première page que je le raconte.
Oui.
Et c'est difficile parce que ma grand-mère me laissait, sous le traversin, elle partait travailler, donc elle me laissait un biberon de lait chaud.
Oui.
Et que dès que je me réveillais, j'attrapais à tâtons le biberon. Donc, pour situer l'âge, je pense que ça devait être vers 3 ans, 2, 3 ans par là. 3, à mon avis, c'est 3 ans.
Oui, entre 3 et 4 ans, je pense que là, on peut avoir des souvenirs.
Des souvenirs, oui. En tout cas, c'est le premier.
D'accord. C'est aussi la vie qui fabriquait des souvenirs, justement, le biberon au chaud sous l'oreiller. Et la vie.
Certainement, c'est la vie, mais... En tout cas, en ce qui me concerne, ça fait partie des premiers souvenirs parce que après, tout en engloutissant, pardon, je regardais le plafond et j'ai le souvenir de ça.
Et oui.
Et mon imagination partait en regardant les dessins que faisait le bois sur les solives, par exemple.
Oui.
Je partais vers un rêve éveillé, en somme.
C'était votre monde, quelque part.
C'était mon monde, oui, effectivement, oui, mm-hmm. Mais.
Manet, c'est le nom que vous donniez à votre grand-mère, elle qui a guidé votre enfance, qui a guidé votre vie quelque part. Est-ce qu'elle a laissé une grande empreinte au fond de vous, justement, pour pouvoir marcher seule ?
Ben oui, ma grand-mère, c'était à la fois mon père et ma mère, puisqu'elle m'a élevé jusqu'à 7 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère exceptionnelle. C'est vraiment, c'était une femme extraordinaire.
Mm-hmm.
Pour dire, ça m'a marqué, je peux vous le dire.
Et dans ce livre, c'est un hommage pour elle ?
Ah oui, en somme, oui. Il n'y a pas un seul jour, je ne pense pas à elle, vous voyez, pour vous dire.
Oui, on le sent dans le livre, cette chaleur que vous mettez, c'est quelque chose d'extraordinaire que vous avez vécu.
Mais je n'en ai pas eu conscience de suite, c'est bien après.
Tout à fait, mais je comprends.
C'est bien après que vous vous rendez compte de la qualité de cette personne, c'est extraordinaire.
On va ouvrir ce livre, il s'appelle « J'étais heureux, même le premier chien rencontré dans la rue, vous l'aurez dit ». Paru aux éditions Spinel en juin 2022, il est tout récent. C'est un beau cadeau d'ailleurs pour les fêtes de Noël qui approchent. J'invite nos auditeurs justement à se le procurer pour faire un beau cadeau parce que c'est un cadeau de vie, je trouve, personnellement. Et donc Manet, vous montrez le travail malgré tout. Vous étiez enfant, vous aviez 4 ans, 5 ans. Jusqu'à 7 ans, on n'est pas conscient du travail.
Oh, pas du tout, non.
Mais elle, à travers ses gestes, à travers son jardin, à travers sa cuisine, les relations des voisins, des amis et des parents, elle vous montrait la vie et elle vous montrait aussi ce qu'il fallait faire pour se nourrir. Est-ce que vous en aviez conscience alors ou pas? C'est venu après.
Alors, c'est venu après, oui. Oui. C'est vraiment, quand elle a disparu, j'ai pris conscience de tout ça.
Et oui.
Et puis au fil des années qui ont suivi, ça...
Et oui, elle vous élevait à Montesquieu parce que c'était la guerre quand vous êtes né et vos parents habitaient Toulouse et ils vous ont laissé chez leur mère pour justement éviter des drames qui auraient pu exister.
Oui, c'est-à-dire que les Allemands tenaient la poudrerie, bombardaient la poudrerie, vous voyez. Les Allemands tenaient la poudrerie. Et les frappes, ce n'était pas des frappes chirurgicales, ça tombait un peu au hasard. Donc ils m'avaient mis à la campagne pour me préserver, en somme.
Oui.
Parce que c'était leur but. Après, quand la guerre était finie, bien sûr, ils m'ont repris.
Oui.
J'avais 7 ans, quoi.
Votre Manet était veuve de la guerre de 14-18. Elle revivait encore une guerre et en même temps, il fallait qu'elle sauve cet enfant.
Oui.
Ça devait être, au fond d'elle-même, elle devait être heureuse mais souffrir à la fois, non?
Je ne pense pas qu'elle souffrait. C'était très amusant ce qu'elle avait accumulé entre les deux guerres, de savon et de sucre dans les placards. Ça m'amusait beaucoup. Mais sinon, souffrir, non, elle ne souffrait pas. Enfin, elle ne le montrait pas en tout cas. Effectivement, elle avait dû souffrir de la guerre précédente, puisque je le répète, elle avait tout en double. Hein. Des arrosoirs, des casseroles en double, tous les ustensiles de cuisine. Et l'essentiel, le savon et le sucre.
D'accord. Vous voyez,
c'est très étonnant, oui.
Oui.
Donc ça l'avait marqué.
Et oui.
Parce que c'est surprenant, parce que la guerre est arrivée, elle avait son stock de savon.
Je comprends.
Ah oui, moi ça m'interpellait, tant enfant, ça. Il y en avait partout, dans les armoires, vous voyez.
Oui. Est-ce que vous étiez un enfant sage, comme on disait à l'époque?
Pas trop, non.
Ah ah, turbulent. Ouais. Les voisins et les amis de Manet, la famille, tout le monde vous élevait en quelque sorte un petit peu parce que vous alliez chez tout le monde. Et vous aimiez aller chez tout le monde.
Ben, le hasard fait qu'il y avait une épicerie, un bazar, à côté, juste à la maison d'à côté, ça collait à la maison de ma grand-mère. Il y avait les odeurs, c'était en vrac, vous voyez, c'est pas comme maintenant. Avec des paquets et tout, tout était en vrac. Pour revenir à votre question, j'étais accueilli chez eux, c'était presque une deuxième famille, j'adorais y aller. Et puis il s'appelait Julie, et lui Pierre, et après j'allais à la pêche avec Pierre, ensuite quand j'étais suffisamment grand, il y avait beaucoup, oui il n'y a pas d'autre mot, c'était ma seconde famille. Alors il se trouve que leur fille, qui s'appelait Aline, a épousé celui qui allait m'apprendre à lire, mon instituteur. Vous voyez, il y a plein de coïncidences.
Et pourtant, c'était avec elle que vous deviez vous marier.
Ah oui. Oui, je disais ça à ma grand-mère. Quoi.
Oui.
Les enfants, c'est ça.
C'est les enfants, c'est vrai. Petit à petit, aller au puits, puiser l'eau pour la journée, pour la basse-cour, pour le jardin, vivre sans eau courante, sans sanitaire, tout ça, ce sont des bruits qui sont en vous pour toujours. Où est-ce que ça s'est estompé?
Des bruits. Ce sont des souvenirs très agréables. Il n'y a pas de traumatisme, là, au contraire.
Oui.
J'adorais ça. J'avais un mur mitoyen avec une voisine. Et ça m'intriguait beaucoup parce que tout d'un coup, elle ouvrait sa porte. Et le hangar était solidaire. Et le mur était mitoyen et le puits aussi. Alors, c'était très amusant. Je me souviens, elle se penchait. Elle était toute petite. Et ça, là, j'étais à l'affût de ça. C'était extraordinaire, ce souvenir-là, de cette personne.
Ce sont de belles images que vous avez.
Ah oui.
La mort des animaux, parce qu'il faut se nourrir après en avoir pris soin, c'était normal pour vous, comme tout le monde d'ailleurs à l'époque ?
Vous voulez dire quand ma grand-mère tuait un canard ou, oui. Ou un poulet ?
Oui.
Oui, ça j'allais me cacher. Quoi.
Vous ne le regardiez pas ?
Ah non, non. Non, moi je me souviens comme une certaine initiation quand on a voulu me faire tenir la queue du cochon.
Vous êtes parti vous
cacher. Je me suis sauvé, oui, je me suis sauvé parce que je ne voulais pas. Je me suis planqué dans un hangar et il m'appelait tout, donc je ne suis pas sorti, vous voyez.
Oui, 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 oui.
Ouais.
Mais vous compreniez quand même que c'était vital pour la famille ?
Ça, je ne sais pas si j'en avais conscience.
D'accord.
Maintenant, oui.
Oui.
Mais à l'époque, non. Mm-hmm. Non, non. Je voyais bien les femmes travailler le cochon, là, faire oui. La saucisse, tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'entraide. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Mais la question, je ne devais pas me la poser, cette question.
Mm-hmm.
Le gros souci, c'est que le cochon est un animal familier. Vous pouvez le caresser, il vous reconnaît, tout.
C'est vrai.
Et là, ça me faisait mal au cœur, je ne pouvais pas. Quand je savais, on me disait qu'il allait être tué, on me le faisait comprendre. Mais là, je ne le caressais plus, quoi. Et alors, imaginez-vous, en plus de lui tenir la queue, hein, pendant qu'il allait hurler. Non, non, c'était au-dessus de mes forces.
Eh oui. Bien que vous aimiez maner, il vous fallait la pousser à bout. Est-ce qu'elle était dure parfois, même si elle vous aimait énormément, ou est-ce qu'elle s'arrangeait justement de détourner la punition au final ?
Non, elle n'était pas dure, mais j'avais conscience qu'elle avait raison. Sauf que quand même, j'essayais d'éviter au maximum les coups de latte, vous voyez. Mais non. Non, elle était adorable. Mais bah, des fois, elle était excédée, quoi, forcément.
Et oui.
Si je laissais échapper les lapins ou si je cassais la vitre de la comptoise, forcément, elle me courait après avec une latte, mais elle ne pouvait pas m'attraper.
Votre maman, elle vous a énormément manqué pendant votre enfance, parce que vous le dites dans votre livre.
Je la fantasmais un peu, ma mère. C'est-à-dire que quand elle venait en vélo, puis c'est son odeur, son amour aussi, mais je la voyais très peu. Elle venait en vélo depuis Toulouse, vous voyez.
Mm-hmm.
J'ai un très bon souvenir de ma mère. Je la fantasmais un peu, puisque je ne la voyais pas beaucoup, je ne la connaissais pas vraiment.
Eh oui.
J'ai le souvenir, je le répète, de sa broche, de son odeur, tout ça, quand elle se penchait vers moi.
Oui.
Ma mère, à l'époque, c'était simplement sous l'angle des gourmandises quoi, qu'elle amenait, vous voyez.
Et oui.
Mais bon, l'attachement, il est venu après. Parce que vous savez, quand ils m'ont repris, à 7 ans, je ne les connaissais pas, mes parents. Hein.
Et oui, mais c'est normal.
Ben oui,
il
alors,
y avait cette séparation.
Ça a été un arrachement pour moi. Ça a été terrible. Oui, oui.
Comment vous sentiez-vous entre Manet et maman ? Protégée ? Soutenue ?
Ça dépend à quelle époque de l'âge que je pouvais avoir. Quand j'étais avec ma grand-mère, je ne peux pas dire que je pouvais évaluer la différence d'amour que j'avais pour ma grand-mère, pour ma mère. Bon, après 7 ans, forcément, c'était à peu près égalité. Mais sinon, avant 7 ans, c'était ma grand-mère. Quoi.
Et oui.
Eh ben oui.
Et votre papa dans tout ça ?
Et mon père, lui, quand je ne savais pas lire, donc ma grand-mère me lisait ses lettres. Alors c'est très curieux, il s'adressait à moi comme un adulte. C'était très, je ne sais pas comment dire, un style très particulier, quoi. Il était maladroit, quoi, dans ses, mm-hmm. dans ses élans d'amour. Il était très maladroit dans ses lettres.
Oui. Ouais. Alors justement, puisque vous avez conscience de cette maladresse, est-ce que vous avez tout fait pour être près de vos enfants ?
Oui, j'ai agi différemment, oui. J'ai agi différemment, parce que je pense qu'il faut quand même, quand on s'adresse à un enfant, parce que mon père était un peu dans la poésie, donc c'était très curieux, quoi, la façon oui. dont il était maladroit, même dans ses effusions, dans ses gestes.
Oui.
Mais c'était très attachant, mais à la fois attachant et maladroit, quoi.
Oui.
Alors, mais... pour répondre à votre question, comment j'ai procédé avec mes enfants, c'est un souvenir de tout ce que j'ai... pas subi, le mot n'est pas là, que j'ai dû donc m'y prendre différemment. Quoi.
Oui.
Mais l'éducation de ma fille, en fait, c'est surtout mon épouse qui s'en est chargée. Hein.
Mm-hmm.
Mais moi, j'étais là, bien sûr.
Et vous avez su parler avec votre fille ?
Je pense, oui. Il faudra que je lui demande.
Ben oui, c'était...
oui.
Très tôt, comme tous à la campagne, vous avez baigné dans la diversité des êtres avec les réfugiés. Est-ce que ça vous a forgé aussi, chez vous, de l'antiracisme?
Ah, pas du tout, au contraire. Ah non, non, pas du tout. Non, j'étais très heureux d'avoir des copains belges.
Oui. Et oui, justement, donc vous n'étiez pas du tout raciste, quoi.
Ah, pas du tout, non. Puis il y a eu les réfugiés espagnols, tout ça. J'avais des copains qui avaient fui le régime, enfin les parents qui avaient fui le régime franquiste.
Oui. Oui.
Et donc j'avais de très bons copains, même dans l'immeuble où j'étais, là, par la suite, quand mes parents m'ont repris.
Oui.
J'ai une multitude de copains espagnols. Vous savez, je ne sais pas, si vous voyez le Square Wilson à Toulouse.
Oui, je vois.
Eh bien, moi, j'allais à l'école, là, où le conservatoire, rue Labeda, et je traversais le Square Wilson. Eh bien, ça parlait espagnol. Ils étaient tous là, ils se réunissaient. Ouais, c'était leur lieu de rencontre.
Oui. Et donc, tout ça, ça s'est emmagasiné au fond de vous, forcément.
Oui.
Et la diversité ne vous dérange pas.
Ah, pas du tout, non.
Tout à fait. Non. Les arrestations de Juifs, vous en avez vu. En tout cas, vous l'avez écrit. Qu'est-ce que ça a laissé au fond de vous, justement?
Non, mais j'étais trop jeune. Ça, c'est quand j'ai été opéré de l'appendicite. Je dois avoir 5 ans.
Oui.
Et ça hurlait dans la rue. Bon, je ne comprenais pas. Alors, ma mère m'a expliqué, quoi. La Gestapo, ça arrivait. Et puis, c'était terrible. Moi, ça me choquait, mais j'avais pas trop, je ne comprenais pas trop.
D'accord.
À quoi ça correspondait. Je ne savais pas.
Vous avez eu peur, vous, pour vous?
Non.
D'accord.
Non, non. Non, même les descentes à la cave, là, donc, ça ne m'a pas traumatisé parce qu'il y avait toujours un voisin qui racontait des blagues, qui faisait diversion, vous voyez.
Eh oui.
Non, non, ça ne m'a pas choqué du tout. Enfin, je n'avais pas conscience, pardon.
Oui.
Après, par la suite, d'une façon rétrospective, bien sûr.
Eh oui.
Mais sinon, je voyais bien qu'il y avait des tensions quand, par exemple, des couples d'Allemands, là, ils venaient à deux faire des courses chez mes parents. Je sentais bien qu'il y a des choses qui n'allaient pas. L'ambiance était terrible. Oui.
Vous venez d'en parler, après la guérison, en rentrant de Toulouse, justement, vous êtes rentré en bus parce qu'il n'y avait personne pour vous véhiculer. Et donc, ce bus, qui était déjà poussif en partant de Toulouse, eh bien, a rendu l'âme à Rieux. Et c'est à pied que vous avez continué jusqu'à Montesquieu. Vous avez fait quand même 6 kilomètres sous le bruit du bombardement. Et là, c'est quelque chose qui m'a émue parce que votre Manu vous a trouvé le moyen de vous rassurer. Est-ce que vous y avez cru tout simplement ou est-ce que vous avez compris qu'il y avait une diversion de quelque chose?
Non, je l'ai compris plus tard,
Oui. En
tant qu'adulte.
D'accord.
Mais en tant qu'enfant, moi, je l'ai cru.
Et oui.
Elle me disait, c'est l'orage, ça va passer, mais c'est comme l'orage. Elle ne disait pas, c'est l'orage, elle disait, c'est comme l'orage.
Oui.
C'était autre chose, mais je ne savais pas quoi. Ouais.
C'est fou parce que c'est, comment dire, cette femme qui avait vécu la guerre de 14, qui revit une guerre en 39-45 et qui encore doit aussi aider son petit-fils, c'est terrible ça, d'arriver justement à faire diversion. Ça m'a drôlement émue. Les métiers de la campagne, le forgeron, le charron, l'entraide entre villageois, les voisins, les amis, la famille, tout ça c'était primordial à l'époque. Et donc vous, là-dedans, vous vous nourrissiez de tout ça?
Je pense que c'était naturel pour moi en tout cas. Ça, oui, je ne trouve pas d'autre mot. On vivait en relation, tous, on se rendait service et voilà. Parce que les tâches, vous voyez, je parlais du cochon tout à l'heure, y a l'entraide se faisait. Entre chacune des personnes, c'était souvent des femmes hein, qui se réunissaient. Oui. Sinon, les tâches...
Les grosses tâches, comme par exemple les vendanges, tout le monde cédait aussi.
Entre autres, oui, les vendanges, oui. Les moissons.
Vous le trouviez dur, justement, vous, de trotter après la grand-mère qui allait aider les voisins et toute la journée, vous étiez là. C'était dur pour vous, vos petites jambes?
Non. Non, on n'allait pas très loin, c'était dans le village. Hein.
D'accord.
Non, 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 c'était une entraide dans le village. Chacun avait son cochon, hein, c'était, ça permettait de survivre toute une année. Quoi. Ouais.
Émilie, la petite résistante,
oui.
Certainement comme beaucoup d'enfants alors, parce que j'ai eu d'autres témoignages d'enfants qui aidaient la résistance, parce que justement ils passaient plus inaperçus que les adultes. Qu'est-ce que ça vous a apporté de l'apprendre 70 ans après?
Ben, ça m'a interpellé parce que jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. Ma grand-mère ne m'a jamais rien dit, quoi que ce soit.
Oui.
Donc, c'est le hasard d'une rencontre que j'ai vu cette personne 70 ans après, vous voyez. Quand on y allait avec ma grand-mère, elle n'évoquait pas ce genre de choses.
Ben quoi. Oui, bien sûr.
Non.
Ça se comprend d'ailleurs. On peut arriver à le comprendre.
Mais elle était plus âgée que moi, cette gamine. Hein. Donc elle a eu conscience de certaines choses, puisqu'on lui interdisait. On lui disait, si jamais tu es pris, avale le petit mot, vous voyez.
Oui.
Donc... Elle, certainement, elle a vécu, elle aurait pu vous en parler mieux que moi. Ouais.
Chose curieuse, dans ce livre, vous avez mis beaucoup de poésie. Chaque paragraphe commence par 4 lignes de poésie. Il y a aussi des passages d'auteurs que vous avez ajoutés. Est-ce que ça, ce sont des restes de votre papa, puisque vous m'avez dit qu'il aimait la poésie?
Ah oui, il aimait la poésie, oui. Tous les soirs, il nous lisait des poèmes. Et peut-être... Hein. Puis moi, j'aime beaucoup Éluard, par exemple. Souvent, je fais référence à lui.
Quoi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pensé en tout cas que peut-être c'était votre papa qui a semé en vous cette graine de poésie.
Allez savoir. C'est peut-être dans les gènes aussi.
Oui, vous en écrivez des fois de la poésie?
De la poésie, sur les 170 chapitres, il y a un poème à chaque endroit. Ça me plaît, quoi. Puis ça donne un peu plus de... Je ne sais pas comment dire, un peu plus d'intérêt peut-être, parce que ça a un rapport avec chaque chapitre.
Tout à fait.
Sinon, la poésie pure, sans faire référence au texte, j'en ai fait, oui, mais je ne l'ai pas écrit, là. Oui.
La vie d'un village, pendant la guerre, s'égrenait par le travail, les bons moments, les jonchées, les blagues. Mais ça, c'était la vie de tous les villages, au moins ici, dans notre Volvestre. L'entente, malgré tout, parce que voilà, s'il n'y avait pas d'entente, on se retrouvait tout seul pour travailler. Et tout ça ne laissait indifférent personne. Ça vous manque aujourd'hui, cette convivialité et cette entraide dans le monde individuel d'aujourd'hui?
Mais ça, ce que vous venez d'évoquer, là, peut-être ça se passe en ville, mais moi, je vis dans un hameau, on est 4 ou 5 maisons.
Oui.
Et on s'entraide, hein. On s'entraide avec mes voisins, on est solidaires. Hein. Ça renoue un peu avec ce que j'ai vécu étant enfant, mais c'est peut-être exceptionnel à notre époque. Hein. Parce
c'est
que
vrai.
Même les gens de palier, en ville, ils ne se connaissent pas. Ils te disent vaguement bonjour. Alors c'est très étonnant. Moi, je fais les marchés en ce moment, et comme quand on dit bonjour à quelqu'un, ça l'interpelle, vous voyez.
Oui.
Il se demande, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là?
Mm-hmm. Hein. Et c'est triste, ça, quelque part, parce que là, dans votre livre, quand on le lit, on sent le voisinage, on sent le lien qu'il y a entre les gens. Et puis là, aujourd'hui, c'est vraiment individuel, quoi.
Ah oui, je le comprends, oui.
Mm-hmm.
Dans mon entourage, là, ils s'en peignent aussi, oui, de ça, oui. C'est certain, oui. Oui, il y a une évolution. Nous, on avait les veillées, donc il y avait le lien.
Oui, c'est vrai.
Alors maintenant, les gens ne se réunissent plus. Il y a la télévision et que sais-je. Donc, à l'époque, notre télévision, nous, c'était les veillées. Oui. Pas forcément au coin du feu. Souvent, l'été, c'était devant la porte.
Oui.
Chacun amenait sa chaise. Et même après, à Toulouse, quand mes parents m'ont repris,
oui.
On sortait la chaise le soir. Et chacun discutait. Hein. Ouais. Ah oui, moi j'ai connu ça. C'était la vie de quartier, en fait, à Toulouse.
Oui.
La
D'accord.
vie de quartier, c'était comme un village. Ouais. Le quartier à côté, c'était les étrangers, quoi. C'est comme Rio et Montesquieu, c'est pareil.
Oui, je comprends bien. Jeanne, nous allons faire une pause musicale. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Ah oui, Georges Chelon. Pensais à lui parce qu'il parle des tâches rurales, justement.
Oui.
Et puis de la disparition de quelqu'un. Ça fait un peu allusion à ma grand-mère. Quoi.
Tout à fait.
C'est pour ça que je l'ai choisi.
Eh bien, c'est gentil, on va l'écouter, on va se le remettre aussi à mémoire. Donc on écoute « Morte saison » de Georges Chelon.
Morte saison, l'amour est en rase campagne. Elle est partie, ma paysanne, avant le temps de la moisson. Morte saison, elle a renié mon bout d'Asie. Paraît que l'amour dans les villes a de plus vastes horizons. Morte cette saison. Elle a mis mon cœur en jachère. Elle a pensé que de ma terre ne sortirait plus rien de bon. Ne sortirait plus rien de bon. Mort saison. Pas même un épi d'amour tremble. Plus un soupçon de pouce tendre qui dorme au creux de mes sillons. Morne saison, elle a mis mon cœur en jachère. Elle m'a dit qu'il pourrait se faire, qu'elle l'ensème un jour pour de bon. Si là-bas, ça ne tournait rond. En quelle saison? Ne faudrait pas trop que ça tarde. À force, tant plus grande garde, plus en épines les chardons. En quelle saison reviendra-t-elle ma paysanne? En l'attendant, pleure la campagne, il n'y a pas eu de moisson. Il n'y aura plus de moisson.
Vous écoutez Page après Page, je suis en compagnie de Jean Allière, auteur montesquivien, qui nous présente son livre « J'étais heureux » paru aux éditions Spinel. L'école était-elle une épreuve pour un garçon de la campagne à votre époque ?
Pas du tout.
Il vous tardait d'aller à l'école ?
Pas forcément, mais c'était parce que, comme je disais précédemment, là, mon instituteur, c'était mon voisin.
Oui.
Il avait épousé la fille de l'épicier d'à côté. J'y allais serein, heureux. Il m'avait tellement, comment dirais-je, on ne peut pas parler de séduction, mais le fait qu'il était mon voisin, ça allait, quoi. C'était, j'étais oui. pas un copain, mais presque.
Oui. D'accord, je comprends. Dans votre tête de petit garçon, voilà. Oui, c'était le voisin et le petit copain.
Oui,
d'accord.
Oui.
Est-ce que cette vie pleine de découvertes vous a donné la soif d'apprendre, justement, parce que qu'est-ce que vous n'avez pas fait de toute votre enfance jusqu'à l'âge d'aller à l'école? Vous en avez emmagasiné des choses.
C'est certain, oui. C'est grâce à mon instituteur. Oui, emmagasiné, je pense que j'en ai emmagasiné aussi par la suite. Parce que
tout à fait.
Même à 84 ans, j'apprends des choses encore.
Tout à fait, non, mais ça je veux bien comprendre, je veux bien le croire, mais à l'époque, peut-être que tout ce que vous aviez vu jusqu'à l'âge d'aller à l'école...
Bon, on n'en a pas tellement conscience.
Oui, ça, non, je ça pense. Je suis.
Moi, je
oui.
pense que, bon, on est face à une évolution. L'évolution, d'ailleurs, est très lente, c'est incroyable. Un an, ça dure une éternité.
Eh oui.
Ouais. C'est comme les vacances, 3 mois de vacances, ça paraissait énorme. Et c'est énorme en plus.
Enfin, ça passe tellement vite.
Ouais.
Je vous l'ai dit, moi qui suis montesquivienne, je ne peux que confirmer que la vie y est paisible. Il a bien fallu, quand la guerre a été finie, rejoindre vos parents à Toulouse, comme vous nous l'avez dit aussi un petit peu dans le début. Ce déchirement, comment vous l'avez vécu, ce déchirement de séparation d'avec Mané?
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était très dur.
Et oui.
Mais après, ils ont su me consoler, quoi, parce que j'avais de braves parents. Hein. J'avais vraiment des parents extraordinaires. Mais ma grand-mère restait...
femme de votre vie.
Ah ben oui. Oui, ça a duré peut-être 3 semaines, la souffrance, mais après, c'est venu. Quoi.
Ça s'est estompé.
Puis j'ai trouvé... je me laissais partir dans la rue, c'est pas comme maintenant. J'étais libre. Et ce sentiment de liberté, j'y pense encore aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ils étaient confiants, mes parents, ils me laissaient partir, on allait s'amuser sur le bord de la Garonne.
Oui.
Ils ne s'inquiétaient pas. Parce que maintenant, la plupart des parents, c'est justifié quand même. Hein.
C'est vrai.
C'est vrai, avec ce qu'on voit actuellement, il y a des types plus ou moins frappés qui peuvent vous agresser ou que sais-je. C'est normal que les parents soient inquiets.
Oui. Ce que je trouve bien aussi, c'est que vous nous faites voir qu'à l'époque, il y avait les fameux bateaux lavoirs. La Garonne était aussi une source de vie pour Toulouse. Et ça, vous en parlez, c'est vraiment génial.
Il n'y avait pas de machine à laver, je peux vous dire, il y avait une tripotée de lavandières. Il y en avait certaines qui étaient assez originales. Hein. Je pense à Marcel en particulier.
Oui.
Et puis il y avait les fameux pêcheurs de sable. Là.
Et oui aussi.
Oui, Maxime, là. C'est incroyable. Je l'ai en mémoire, son visage. Hein. Et pareil que la voix de certaines personnes. Je l'ai là, au niveau des tempes, là, c'est incroyable. Oui, ouais, c'est ces personnages du Bas-de-Garonne. Là. Le pêcheur de sable, notamment, il avait un baraquement, là. En tant que gosse, on allait tout autour de ces baraquements. Il y avait aussi une payarotte, là, on appelait ça, ça s'appelait Mathilde, je me souviens, mais je ne veux pas dépasser, là, parce que je vais vous raconter le livre autrement.
Oui, tout à fait. Il faut cacher, il ne faut pas tout dire. La vie change radicalement pour vous quand vous êtes à Toulouse. Ce sont des nouveaux copains, ce sont des nouveaux voisins, de nouvelles écoles, découvertes de la grande ville. Le jeune ado que vous êtes, ou le pré-ado encore que vous êtes, est-ce qu'il pense encore à sa grand-mère ou pas?
Alors, quand vous dites pré-ado, on saute plusieurs années, là, parce que pour l'instant...
Oui, oui, bien sûr, mais je ne peux pas non plus énoncer tous les chapitres du livre. Il faut que garder un
non,
peu de secret.
Si vous voulez. L'adolescence dans mon quartier, je n'oubliais pas ma grand-mère, puisque j'y allais toutes les vacances.
Pour les vacances.
Donc
oui.
Je renouais chaque fois.
Oui.
J'allais retrouver à Noël et à Pâques, etc. Oui. Non, j'ai gardé le lien.
Oui.
Gardé le lien.
Vous en aviez besoin?
J'en avais besoin, oui. Vous parlez de la préadolescence, là, on prend conscience de certaines choses. Par exemple, à propos des cérémonies religieuses, quand j'ai eu 12 ou 13 ans, parce que ma grand-mère allait à la messe, par exemple.
Oui.
Donc, mais j'y allais pour lui faire plaisir, mais je n'avais pas trop envie d'y aller, quoi, en fait. Mais comme je l'aimais tellement, j'y allais pour lui faire plaisir. Je ne sais pas si je suis un sujet, là.
Non, vous êtes... non, parce que vous l'avez écrit dans votre livre, et comme je ne veux pas reprendre, je ne peux pas non plus reprendre tous les chapitres, justement, c'est tout ça que vous a inculqué votre Manet. Elle vous a inculqué, justement, à travers sa vie à elle, elle vous a inculqué le respect pour tout le monde, pour les autres.
Oh, mais c'était par l'exemple. Hein. C'était par l'exemple. Je la voyais faire, je comprenais. Mais ça me paraissait naturel.
Ah, mais tout à fait, je le comprends.
Oui, non, jamais j'aurais pu imaginer qu'elle pouvait... Elle n'avait d'ailleurs aucune antipathie, elle rendait service à tous. Hein.
C'est vrai.
Quel qu'il soit. Et ça, c'est extraordinaire.
Vous voyez bien que vous... En grandissant, vous aviez un peu plus de force et quand vous veniez en vacances à Montesquieu, ben, vous l'aidiez justement à puiser l'eau et porter son seau. Et là, vous vous rendez compte que vous lui rendez quelque chose?
L'histoire du seau, non, c'est la cruche. Parce
oui.
que la cruche, elle pesait, je ne peux pas la porter. Et à un moment donné, j'ai eu assez de force pour la porter. Mais c'était une fierté de le faire, mais pas forcément, peut-être pour le rendre service, mais surtout, tout d'un coup, j'avais la force de porter la cruche. C'était extraordinaire pour moi. Mais je ne sais pas s'il y avait aussi, en plus, ce plaisir de faire plaisir à ma grand-mère. Pardon pour la répétition.
Certainement. Je suis sûre qu'il devait y avoir, au fond de vous, c'est normal.
Mais c'est peut-être inconscient aussi.
Tout à fait.
Oui. Ce souvenir de porter la cruche, là, oui, effectivement, ça...
À Toulouse, c'est la découverte de Garonne, justement, de la vie de la ville, et avec des oubliés aussi, des gens qu'il y avait dans la rue. Qu'est-ce que ça vous a fait, justement, de découvrir une autre vie?
J'ai découvert qu'effectivement, on pouvait tomber dans la déchéance, quoi. Mais malgré tout, il n'y avait pas 36 clochards, on n'en avait qu'un, on l'appelait Jambour. Et les maires disaient, s'il n'est pas sage, on va te donner à Jambour. Là, j'étais trop grand pour le croire, ça. Parce que j'avais dépassé 7-8 ans. Mais les mômes de 4 ou 5 ans, ils avaient peur, oui, bien sûr. Mais Jambour, c'était une figure du quartier. Oui. En fait, si on réfléchit, il n'y avait que ce seul clochard, hein, il n'y avait pas d'autre. Ce n'est pas le cas actuellement.
Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça a drôlement changé.
Oui, on avait que... Ben, il était particulier. Il a eu habité d'ailleurs dans une maison. Hein. Mon père l'a eu livré à l'époque, parce qu'il faisait livraison, mes parents, à domicile. Puis après, il a commencé à ne plus payer son loyer, etc. On l'a fiché dehors, il s'est retrouvé dans la rue. Et il restait autour du quartier, là.
Ça vous a choqué parce qu'à Montesquieu, il n'y en avait pas de gens dans la rue.
C'est vrai. Mais pas plus que ça.
Oui.
Franchement.
C'était normal pour vous, quelque part ?
Non, c'était pas normal, bien sûr.
Non, c'était pas normal, mais pour vous, c'était dans la normalité ?
Peut-être, oui. C'est un côté un peu. Comment dirais-je ? Ça me surprenait, ça c'est certain. Oui, ça me surprenait, mais pas tellement de compassion. J'avais pas la compassion de ce monsieur qui. Normalement, j'aurais dû avoir de la compassion pour ce monsieur qui était dans la rue, quoi.
Oui.
Mais quand on est petit, on n'a pas ça.
Tout à fait.
C'est quand on est adulte, après, qu'on comprend, quoi, que c'était une déchéance pour ce monsieur. Ouais. Mais il semblait pas malheureux, en tout cas. Hein. Enfin, on avait cette impression. Il était avec tous ses paquets qui trimbalaient, là. Et voilà, il faisait partie du quartier, en somme.
D'accord. Le jeune campagnard que vous êtes, c'est se débrouiller, vous faites des jaloux autour de vous, avec votre engin à roues qui dévale les pentes. Ça, c'était dans la logique de votre vie ou c'était une petite conquête quelque part, parmi vos copains ?
Ah, pas du tout. Non, mais tous les gamins faisaient ça à l'époque.
Oui.
Même les Parisiens, ils avaient des traîneaux à roulettes. Mais dans toute la France, c'est très curieux, on se les fabriquait nous-mêmes.
Ben oui.
Moi, j'étais pas le seul hein, à le fabriquer. Mon copain Michel, là, qui habitait dans mon immeuble, tous les deux, on bricolait ça. Mais non, ce n'est pas une conquête, non. Non. J'en ai fabriqué pour d'autres copains, vous voyez.
Et oui, justement, c'est pour ça.
Oui, j'en ai, parce que les mères disaient, mais il va te le faire, Jeannot, il va t'en faire un. Alors, je le faisais. Mais non, il n'y a pas du tout d'esprit de conquête.
À un moment, vous échangez votre chariot à roulettes contre un couteau, quand même.
Non, le couteau, j'avais fabriqué un tomahawk avec un vieux couteau.
Ah oui, c'était un tomahawk, pardon.
Et après, j'ai échangé contre un autre couteau, mais il y avait marqué USA, et donc ce couteau, effectivement, je l'ai gardé plusieurs années. Enfin, oui, c'est ce genre d'échange qu'on pouvait faire à l'époque. Mm-hmm,
oui.
Mais je ne sais pas s'il était équitable, hein, parce que...
C'est aussi la vie de débrouille, le marché au bouquin, les puces, ça forge le futur homme que vous êtes devenu. Ce moment où vous avez vendu vos livres sans payer votre place, en faisant attention que les placiers n'arrivaient pas.
Oui, parce qu'on nous chassait en fait. Oui, le placeur, il nous chassait. Je ne sais pas pourquoi il nous chassait d'ailleurs. Il n'était pas tolérant, quoi, parce qu'on n'embêtait personne. Hein.
Et oui.
Mais bon, ils nous chassaient. Mais sinon, c'était une expérience. En fait, c'était de l'obligation de pouvoir échanger, donc de pouvoir lire autre chose que toujours les mêmes.
Eh oui.
Souvent, c'était des trocs. Hein.
Mm-hmm.
C'était pas forcément monnayé, vous voyez.
Oui, je comprends bien.
Oui, j'ai un très bon souvenir de ça, des puces de Saint-Cernin. Ouais, je ne sais pas si ça existe, je ne crois pas. Hein,
je
ne
saurais pas vous dire.
Non, il n'y a plus le marché aux puces.
Les Noëls, vous les passiez plus à Toulouse ou à Montesquieu ?
À Montesquieu, toujours, oui.
Il le fallait pour vous ?
Non, c'était... je ne peux pas dire qu'il le fallait, mais ça se produisait, puisque ça correspondait aux vacances. Impérativement, je passais Noël avec ma grand-mère.
D'accord.
Mais j'en étais très heureux. Mes parents, ils étaient occupés. Ils travaillaient même le dimanche matin, vous voyez.
Et oui, ben, comme beaucoup de monde à l'époque. Hein.
Ah oui, c'est incroyable. Hein. Ouais, donc, ils étaient bloqués chez leur gérance, leur magasin.
Mm-hmm. Ouais. Vous attendiez chaque retour à Montesquieu ? Et est-ce que Manet aussi vous attendait ? Ou est-ce qu'elle se pliait à vous ? C'est-à-dire que vous ne veniez pas, ben tant pis ?
Alors là, je ne me suis jamais posé la question. Je pense qu'on s'aimait tellement qu'on ne se posait pas la question, non.
Donc vous reveniez à Montesquieu ?
Je revenais.
Inlassablement ?
Ah ben oui, même adolescent, c'était un attachement extraordinaire.
Mm-hmm.
Ouais.
Vous parlez de la fête de Montesquieu. Vous êtes certainement revenu pour les fêtes de Montesquieu, si vous le pouviez. Et vous parlez aussi des fêtes de Toulouse. Il y a une différence, certainement.
Ah, vous faites allusion aux baloches, là.
Oui.
Oui, les baloches, oui, c'était la fête à Toulouse. Oui. Ça pétardait de partout, là.
Oui.
Oui, on poursuivait les filles et tout ça. Mais Montesquieu, c'est différent. C'était différent. Montesquieu, c'était les chars, les farandoles.
Mm-hmm.
Puis ça durait qu'un jour. À Toulouse, ça durait 3 jours. Hein.
Oui. Et alors, vous préfériez les fêtes de Toulouse ou les fêtes de Montesquieu, ou justement les deux, parce que vous aviez besoin des deux, peut-être aussi?
Je ne pense pas que ce soit un besoin. Je ne sais pas comment dire. Moi, il n'y avait pas de différence. Il y avait quand même le fait qu'à Toulouse, ça durait 3 jours. Quoi. Oui. Il y avait la différence, elle était là, en fait. Mm-hmm. Mais sinon, c'était festif des deux côtés, parce qu'à Toulouse, il n'y avait pas la fanfare.
Oui.
Mais à Montesquieu, on avait droit à la fanfare. Et ça, c'était festif aussi.
Hein. Oh, ah, tout à fait.
Oui. Puis le monument aux morts, tout ça, les vieux qui allaient de leurs larmes et tout ça. Enfin, oui. Ouais, c'était un bon moment. Hein, c'était un moment ouais.
Vous auriez voulu grandir chez Manet ou pas?
Ben, quand ils m'ont repris, mes parents, ça a été un arrachement, effectivement.
Oui.
Maintenant, après grandir chez elle, comme j'y revenais après pour les vacances, ça ne pose aucun problème. Donc je vivais cette alternance de vie.
Oui.
À la ville et à la campagne. J'étais très heureux comme ça.
Est-ce que la séparation définitive d'avec Manet a-t-elle été un grand chagrin pour Jean de Titou?
La douleur, oui, bien sûr. La vraie séparation, c'est quand elle a disparu.
Voilà, c'est ça. C'est de celle-là que je parle.
Ah, c'est de celle-là. Ah, oui. Pardon, excusez-moi. Oui, là, ça a été dur, oui. Ça a été très dur.
Est-ce que Jean de Titou a pu se relever, on va dire, facilement, si je peux employer ce mot? Parce que la jeunesse, souvent, balaye beaucoup de choses.
Oui, facilement. Mes parents me laissaient partir seul à la campagne. Je revenais dans sa maison et je m'imprégnais de la maison, que je sentais comme une présence, en somme. Hein. Et ça me réconfortait chaque fois. Oui. Ne serait-ce que les craquillements de la charpente et tout ça, ça craque plus ou moins une vieille maison.
Oui, tout à fait.
C'était des bonnes forces pour moi. Donc cette séparation, cette disparition, pardon, oui, j'en ai souffert, c'est certain, oui. Mais je trouvais le réconfort dans sa maison.
Je comprends. Vous parlez de vos parents, bienveillants sur vous, bien sûr, très différents de l'éducation de votre grand-mère, très certainement. Une maman à cheval sur l'éducation. Vous disiez que parfois il pleuvait plus souvent que d'habitude sur vos joues. Le papa, plus passif, qui lui essaie de vous éduquer, mais plus à la douce. Il vous montrait, lui, ce qu'était la culture, par contre.
Oui.
Est-ce que cette différence a été un équilibre aussi pour vous? C'est-à-dire la maman autoritaire et le papa plus cool?
Je ne sais pas trop quoi répondre. J'ai pris quelques torgnoles, où il y avait ma mère. Mais elle me talochait, mais je le prenais pas mal. Quoi. C'était devenu une habitude. Quoi. Mais aussi, j'étais un emmerdeur pas possible. Je le cherchais. Oui, non, non. Mon père, lui, effectivement, lui, il ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais frappé. Mais à l'époque, c'était ça, les enfants, on les talochait. Hein,
ben oui.
Pour la moindre chose. Mais ma mère était de tendance colérique. C'était une brave femme. Hein. Je ne fallait pas trop lui chatouiller les moustaches. Non. Elle y allait même à la castagne avec les adultes.
Hein. Ah, carrément?
Ben oui, elle en a boxé quelques-uns dans le quartier.
Ah, j'imagine ça. Ça... Et donc, finalement, vous aviez trouvé un certain équilibre, puisque quand votre maman, justement, vous lancez une torgnole, comme vous dites, vous le preniez aussi, quelque part, un peu, à la rigolade, ou pas?
Plutôt, oui, parce que, en fait, la plupart du temps, j'esquivais.
Oui.
J'ai jamais pensé que mes parents m'ont, comment dirais-je, ils m'ont jamais terrorisé, mes parents, mais bon... C'était un peu comme une virgule dans la ponctuation, quoi.
D'accord.
Voilà.
C'est rigolo comme vous en parlez. Vous dites un certain regret de ne pas avoir parlé avec votre papa, justement. Vous nous avez dit aussi que vous, peut-être, vous avez fait machine arrière et que vous avez parlé autrement avec votre fille. Est-ce que vous en avez conscience ou est-ce qu'il a fallu que vous vous forciez, justement, à faire autrement?
Non, c'est venu naturellement. Ma fille a été élevée surtout par sa mère. Moi, j'étais pris par mon travail.
Oui.
C'est une éducation un peu méditerranéenne, un peu cool, quoi. Sa maman était très tolérante avec ma fille. Donc, moi, j'allais dans ce même sens, vous voyez?
Oui. Parce que vous aviez reçu une éducation, même, on va dire, même pas rigide, elle était quand même cool, votre éducation, finalement.
L'éducation que j'ai reçue?
Oui.
Oui, j'ai de bons souvenirs, oui, oui. Ma mère était colérique. Bon, j'ai très bien compris dès le départ qu'elle était colérique.
Oui.
Mais elle pouvait être extraordinaire aussi. Elle avait des élans de générosité extraordinaires.
Mm-hmm.
Et ça, j'avais conscience. Parce qu'ils vivaient chichement, c'était vraiment de quoi, à peine de quoi vivre. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais ma mère, elle m'a amené au cinéma, c'était extraordinaire. Parce qu'elle avait trouvé un moyen de financer nos sorties, vous voyez. Elle avait gagné un concours de tricot, là. On lui avait offert en échange une machine à tricoter. Donc elle faisait des tricots la nuit comme ça, et puis avec cet argent, on allait au cinéma.
C'est génial.
Eh bien oui.
Ah, c'est génial. Votre livre n'est fait que de rencontres, de découvertes, de rubis, de castagnes, de voyages, de jeux de billes. Vous nous faites partager cette vie qui était alors, c'était dans les années 50, juste après la guerre, quoi.
Oui, oui, oui.
L'après-guerre a été une excellente période pour tout le monde, puisqu'il fallait remonter le pays. C'est comme ça que vous avez vécu cette période dans l'élan de toute la vie de tout le monde et que vous avez pris le train en marche, justement, quand vous avez quitté votre famille ?
Je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait du travail pour tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Il n'y avait pas de chômeurs, à part Jean Bourg, là, notre clochard. Là. Et moi, effectivement, à un moment donné, je suis parti. J'avais 18 ans et je voulais voir autre chose. Quoi.
Oui.
Je revenais au quartier avec plaisir. Et puis après, je suis revenu avec mon épouse. J'ai épuisé mon épouse. On est revenu vivre dans le sud. Oui.
Mais c'était la facilité, quelque part, pour les jeunes qui arrivaient sur le marché du travail.
Ah oui, là, il n'y avait aucun souci. Hein.
Voilà.
Ah oui, vous pouviez quitter un patron et retrouver du boulot le lendemain. Hein. Oui.
Une très belle lecture que vous m'avez proposée et je vous en remercie. Est-ce que vous avez d'autres livres en route ou un autre livre en route ?
Ben, j'ai ma fille qui m'a dit que tu devrais écrire ce qui s'est passé après la mort de ta grand-mère. Donc je le raconte dans un troisième livre. Là.
D'accord.
Mais il est en gestation seulement, il n'est pas...
Il n'est pas encore...
Il n'est même pas tapé, il est sous une forme manuscrite.
D'accord, bon.
Parce que je ne suis pas très doué à l'ordinateur, donc je l'écris et après je le fais taper.
Très bien, parfait. On connaîtra les suites de votre histoire. Jean, je vous remercie de m'avoir confié cette belle lecture parce que, comme je vous l'ai dit, je suis plus jeune que vous, certes, mais... J'ai vécu un petit peu aussi, j'ai vécu la campagne, j'ai vécu, on n'avait pas faim, mais disons qu'on n'était pas dans l'opulence non plus, et c'était la belle vie finalement, quelque part.
Pour les enfants, oui.
Oui. Ça a éveillé beaucoup de souvenirs au fond de moi, c'est vrai, parce que notre Volvestre, il est beau, je le revendique haut et fort justement. La couverture, on voit un quartier toulousain, mais à travers aussi, je suppose qu'il y a un quelque part, dans cette photo de Jean de Titou, c'est aussi Montesquieu ?
Non.
C'est le quartier de Toulouse, c'est, ça c'est sûr ?
Ah oui, oui, c'est le quai de la Dorade où on s'amusait, avec les pêcheurs de sable, les bateaux lavoirs. Oui, non, Montesquieu, c'est autre chose. J'ai failli imager ma couverture avec... mais c'est un choix en fait.
Oui, d'accord.
Donc on ne pouvait pas tout mettre. Quoi.
Oui.
Évoquer Montesquieu, évoquer Toulouse, puis c'était un partage de vie, de une partie à la campagne et une partie à la ville. Alors comment, à travers la couverture, imaginer cette alternance, c'était trop difficile. Ouais.
Que vous ont dit les gens qui ont déjà lu ce livre ?
C'est très bon retour.
Ah.
Très, très bon retour.
Je ne suis
Alors,
pas
y a, y a, y a... Il y a une dame qui m'a dit, qui a lu mon livre, elle m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai ri, monsieur, hier. » Ah bon ? Et un autre monsieur, Durieux, il m'a dit « Vous m'avez fait pleurer. » Alors c'est très curieux, quoi.
Et oui, mais c'est selon, c'est le ressenti de chaque lecteur. Et puis peut-être la dame a fait des bêtises comme vous faisiez. Peut-être que le monsieur a vécu des choses aussi terribles et que peut-être, ça l'a ému de notre sens.
C'est... Ah oui, mais moi, c'était pas terrible ce que j'ai vécu. C'était très agréable.
C'est
non,
ce
mais
faut.
Le monsieur en question, c'est à propos des premières pages du bouquin, du livre, là, et à propos du tablier de sa grand-mère,
tout ça.
Et, oui, alors ça, il m'a dit, j'en ai pleuré. Il m'a dit, ah bon, mais il est extrêmement sensible, ce monsieur.
Ah, c'est fort possible.
S'il m'entend, il va se reconnaître.
Eh bien, on lui fait un petit coucou aussi. Jean, il va falloir se quitter. Qu'est-ce que vous nous avez prévu comme troisième musique ?
Trois petites notes de musique d'Yves Montand. Enfin, chanté par Yves Montand, parce que ça a été chanté par Cora Vauquer aussi.
Oui.
Et ça, je pense que c'est le côté nostalgique du choix. Quoi.
Ben, on va l'écouter. D'ici, à nous revoir pour le prochain livre qui est encore en manuscrit, on se reverra certainement.
Il faudrait être patient, alors. Hein.
Oui. Je vous remercie beaucoup, Jean, encore de m'avoir confié cette belle lecture. Je vous remercie parce que franchement, moi qui connais Montesquieu, moi qui connais le Volvestre, on est chez nous, vraiment.
Ok.
Vous donnerez bien le bonjour à Jean de Titou ?
Ah oui, Jean de Titou, oui. C'est un copain, moi.
Je vous laisse le mot de la fin.
Ah, là, c'est très difficile. Vous m'avez remercié. Moi, je pense que tout l'art de répondre à quelqu'un, c'est de savoir poser des questions. Et je pense que vous avez posé les bonnes questions. Je ne peux que vous remercier à vous aussi.
C'est gentil à vous. À voilà. Bientôt.
Allez, au revoir.
Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, disait la rengaine, la la mon amour. Les paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime emmène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec s'achève, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence, le temps d'une danse, l'espace d'un refrain.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.